C'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il est 19h passé de 2 minutes et c'est le grand retour du Canu Info du mercredi.
Voilà, on est content et contente de vous retrouver pour commencer la saison un peu doucement, mais elle a commencé quand même.
Oui, c'est ça, vous allez voir, on va vous faire des infos incroyablement longues, fouillées et magnifiques.
Le retour d'été.
On devrait avoir terminé aux alentours de 20h15.
Alors, si vous n'êtes pas en train d'écouter les vœux des échevins qui se déroulent actuellement à la basilique de Fourvière, alors vous allez entendre parler d'évasion à la petite cuillère en Israël.
Et comment faire semblant d'augmenter les salaires dans la restauration?
Ensuite, on parlera de la dépénalisation de l'avortement au Mexique.
On aura une petite musique et puis Kovacs qui revoit ses ambitions à la baisse. On se disait il y a 5 minutes en studio que décidément ça fait depuis qu'on parle de Kovacs qu'on a un peu le même titre qu'on répète de Canu Info en Canu Info.
Ensuite on va revenir sur le coup d'état en Guinée qui est tout d'abord un coup d'état militaire, rappelons-le.
Et puis on terminera par des petits conseils de lecture et un agenda.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors aux États-Unis, le programme d'aide économique d'urgence qui s'adressait aux chômeurs, aux chômeuses et aux personnes qui sont travailleurs, aux travailleurs indépendants, s'arrête en fait depuis lundi. Donc un peu comme le même calendrier qu'en France. Depuis lundi, donc les 7,5 millions de chômeurs, chômeuses et de travailleurs indépendants doivent se passer de leur allocation hebdomadaire qui était de $300. Une aide exceptionnelle qui permettait à un plus grand nombre de personnes sans emploi, par exemple, de toucher les indemnités plus élevées, mais aussi pendant une durée plus longue. Alors, c'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et puis, c'est une allocation qui avait déjà été supprimée cet été par une vingtaine d'États républicains parce qu'elle était jugée nuisible à l'économie. Cet été, le gouverneur républicain de Floride, par exemple, qui a été un des premiers à stopper les aides versées aux plus fragiles durant la pandémie, puisque c'était trop généreux, nuisible à l'emploi, selon donc Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride. Un argument qui a été contesté par de nombreux économistes, mais validé avec aplomb par Laverne Spicer, qui est, vous ne devinerez pas, la directrice de la banque alimentaire d'un quartier de Miami, et qui veut bien nourrir les pauvres à condition qu'ils le restent. Je cite, « Ils ont versé tellement d'allocations que les gens gagnaient plus d'argent quand ils travaillaient. Du coup, beaucoup refusaient d'aller travailler, mais il faut se remettre au travail. » Alors autant dire qu'elle et le gouvernement avec elle oublient un peu vite que certains ne peuvent tout simplement pas retourner travailler, quand bien même les allocations chômage amenées à disparaître sont leur seule source de revenus.
Canu Info. mercredi.
Alors, hier, 6 prisonniers palestiniens se sont échappés d'une prison de haute sécurité de Gilboa en Israël. Parmi eux, un ex-combattant du Fatah pendant la seconde intifada et aussi ex-ennemi public numéro 1 de l'État d'Israël, Zakaria Zebeidi. Alors, c'est un peu une évasion digne d'un western. En plus qu'elle se déroule dans une prison de haute sécurité réputée pour être inviolable. En gros, avec l'aide de ses co-détenus, un tunnel est ouvert dans des toilettes qui débouchent sous un espace vide. Et à partir de là, ils ont pu creuser tranquillement un tunnel d'une vingtaine de mètres et de 10 cm de large. Alors, 10 cm, si vous voulez aller voir des photos, c'est assez impressionnant. Donc ouais, c'est vraiment à peine large pour passer les épaules.
10 cm.
De 10 cm, ça devait être peut-être 20. Non, c'est vraiment peu. Hein.
On n'a qu'à dire que c'est très étroit, mais même 20 cm.
Et en gros, voilà, donc ils ont pu faire ça à la petite cuillère, tranquillement à l'abri des matons, et puis passer derrière les murs de la prison et être récupéré par une voiture. Alors, humilié par cette évasion rocambolesque, à la fois d'une prison réputée inviolable et en plus avec parmi les évadés une figure assez populaire pour que l'annonce de son évasion soit accueillie par des acclamations côté palestinien. Revers de la médaille, hors de question pour les forces de sécurité israéliennes de le laisser dehors. Tous les moyens sont donc bons pour la traque, hélicoptère, drone, etc. Mais c'est également des arrestations arbitraires des membres des familles des évadés. Kouadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens Assaut de défense de droits des détenus, parle évidemment d'arrestations injustifiées et d'une politique de punition collective pour qui, je cite, s'en prendre aux familles, c'est faire pression sur les prisonniers en fuite pour les pousser à se rendre, les contraindre à reconsidérer la situation. C'est du pur chantage. Arrêter les proches, ce n'est ni plus ni moins qu'un moyen de pression. Voilà, donc affaire à suivre. On imagine que la traque va avoir des répercussions.
Canu Info.
C'est à toi. Ah, alors, on va parler de comment les salaires augmentent dans la restauration.
Ah ben oui, exactement. Si on parlait de ça. Alors, il paraît qu'en ce moment, on ne se bouscule pas pour venir travailler dans la restauration. Les patrons du secteur sont donc invités par la ministre du Travail à faire des propositions sur les rémunérations qui ne sont, surprise, pas à la hauteur. Alors, des propositions, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, après avoir réfléchi comment tout faire pour ne surtout pas augmenter les salaires, Pascal Mousset, qui est président du Groupement National des Indépendants de Paris-Île-de-France, a trouvé la bonne idée, c'est-à-dire ne plus payer de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et, de cette façon, gonfler le salaire net en ne reversant rien aux caisses de retraite ou à l'assurance chômage. Alors, de toute façon, en bon connaisseur des masses exploitées, je cite, « On a beaucoup de jeunes dans nos métiers, on ne peut pas les recruter en leur disant « Vous allez avoir une retraite », ça n'a pas de sens pour eux, ils veulent avoir un revenu net disponible qui leur permette de vivre décemment. » Alors voilà, dans des métiers où le contrat de base peut déjà frôler les 40 heures, où les heures supplémentaires sont loin d'être toujours payées et où le travail dissimulé est légion, on peut dire que la proposition est plutôt gonflée. Selon une étude lancée en 2015 par le ministère de l'Économie et le CREDOC, le secteur de l'hôtellerie-restauration serait le second secteur le plus exposé au travail dissimulé, au coude à coude avec celui de la construction, ce que confirment les données de l'URSSAF qui établissent un taux de dissimulation de 6,7% sur à peu près un peu plus de 5000 contrôles en 2017. Donc un chiffre qui n'est pas négligeable, d'autant plus que c'est un secteur qui est assez peu contrôlé dans ses activités de nuit et de week-end. Voilà. Alors, on parle aussi la restauration d'un secteur d'activité qui utilise les contrats courts pendant les saisons, qui renvoie donc vers l'assurance chômage une bonne partie de ses salariés. Beaucoup de gens sont aussi embauchés en CDD ou en contrat d'extra, en saisonnier. Donc, salariés qui sont en fait indemnisés après ça grâce aux cotisations sociales que le GNI propose justement de supprimer. Alors, en tout cas, c'est un avantage bien compris par le patronat au-delà du seul secteur de la restauration, puisque, par exemple, François Asselin, qui est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a repris à son compte cette proposition pendant un entretien avec le Premier ministre, et puis un communiqué de presse de cette Confédération des petites et moyennes entreprises a abondé dans ce sens. Je cite le communiqué de presse, « Pour concilier à la fois le besoin de main-d'œuvre des entreprises et la volonté de voir progresser le pouvoir d'achat, la CPME propose de réactiver la suppression des charges patronales sur les heures supplémentaires. » Le MEDEF n'est pas en reste. Son président délégué, qui est Patrick Martin, expliquait fin août qu'il souhaitait une discussion avec l'État et les syndicats sur ce point, estimant qu'il y a probablement des marges de manœuvre sur les charges sociales. Voilà, lui aussi a avancé son argument massu. Les salariés, eux, voient le salaire net. Encore une fois, c'est exactement par seul souci de la satisfaction des salariés que les patrons réagissent comme ça.
Canu Info.
Et la Cour suprême mexicaine vient de décider de la dépénalisation de l'avortement au Mexique. Elle avait été saisie pour se prononcer sur une loi qui avait été votée dans l'État mexicain de Coahuila. Le Mexique, c'est un pays fédéral, ce qui veut dire que chaque État a une sorte de grosse liberté pour voter des lois différentes de celles des autres États. Mais tout ça, bien sûr, doit rester dans la limite de la Constitution. Or, l'État de Coahuila, qui venait de voter la criminalisation des femmes qui avortent, avec des peines qui pouvaient aller jusqu'à 3 ans de prison, eh ben, la Cour suprême a déclaré que cette loi était inconstitutionnelle. Elle l'a fait dans des termes qui rendent de fait inconstitutionnelles les lois plus ou moins similaires qui existent dans 29 autres des États mexicains. Le Mexique a 32 États. Autant dire que l'avortement jusque-là n'était légal. Enfin, n'est légal qu'à Mexico DF, c'est-à-dire dans l'État qui est constitué par la capitale, et dans l'État de Oaxaca. Dans tout le reste du pays, c'est interdit, avec pour la plupart de ces États des peines de prison potentielles qui vont de 15 jours pour les États les plus sympas à 3 ans. Ça faisait partie des États plutôt les plus répressifs. En tout cas, depuis cette décision de la Cour constitutionnelle qui est intervenue hier, aucune femme ne peut plus être condamnée pour avoir avorté. Et c'est même plus que ça, c'est que celles qui sont en prison, ici ou là, pour avoir avorté, a priori devraient pouvoir se lancer dans des démarches qui risquent de durer un peu, mais qui vont finir par les faire sortir potentiellement avant la fin de leur peine. Bon, c'est une bonne chose. C'est un début, mais ce n'est qu'un début sur un long chemin qui reste à parcourir. Là, la Cour suprême n'a pas le pouvoir d'écrire une nouvelle loi. Et donc, elle n'est pas capable de légaliser l'avortement. Maintenant, c'est les États qui vont devoir réécrire leur loi. Et d'ici là, et ça, c'est le président de la Cour suprême qui le précise, jusqu'à ce que les lois soient réformées, les femmes qui souhaitent mettre fin à leur grossesse devront saisir la justice afin qu'un juge fédéral puisse ordonner à la clinique ou à l'hôpital concerné de pratiquer l'avortement. Donc dire que pour avorter, ça, c'est une démarche qui reste un peu... c'est pas la simplicité, il faut commencer par aller au tribunal, demander que le juge... Et pour le coup, j'ai pas bien d'idée des délais des cours mexicaines, mais enfin c'est possible que ça dure un peu, demander que le juge trouve un hôpital à qui il ordonne de faire l'avortement. C'est pas la situation exactement idéale. On est même loin de la situation idéale, mais c'est quand même un grand pas. Et les juges de la Cour suprême, les juges qui ont voté cette décision à l'unanimité, alors la Cour suprême au Mexique, c'est 11 juges, il y en a un qui n'y était pas, parce que je ne sais pas quoi, il avait un mot d'excuse. Les 10 autres ont voté cette décision à l'unanimité. Et ils ne sont pas privés de la commenter pour qu'elle soit bien comprise. Le président de la Cour, de la Cour suprême, a bien expliqué que c'est un pas de plus dans la lutte historique pour l'égalité des femmes, la dignité et le plein exercice de leurs droits. Et une autre juge de la Cour, Ana Margarita Rios Farhat, a souligné que la criminalisation de l'avortement se traduisait par une violation des droits humains, tels que la dignité humaine, l'autonomie, le libre développement de la personnalité, l'égalité juridique, la santé, la liberté reproductive... Bon, autant dire qu'ils ont quand même chargé la barque, quoi, pour dire que l'avortement, c'était nécessaire. Alors, dans ce pays, il y a ce président, Andrés Manuel López Obrador, une sorte de Mélenchon mexicain, un peu un matamor de gauche plus ou moins radical, plutôt fort en gueule et amoureux du pouvoir plutôt que de n'importe quelle idée, très ami avec Donald Trump quand il était là, pas du tout ami avec les apatistes par exemple, AMLO, comme on l'appelle quand on a la flemme de prononcer son nom en entier. Et bah lui, il avait courageusement refusé de se prononcer sur le sujet. Parce que dans la politique sérieuse, le droit des femmes, c'est sympa, mais ça peut quand même vous plomber, voire vous faire des ennemis. Et donc, il avait déclaré, avant la décision de la Cour, qu'il ne serait pas sage de prendre parti, car il s'agit d'une question controversée. Et donc, voilà, lui, il est là pour faire de la politique, pas pour faire de la controverse. Et que la meilleure des choses à faire était d'attendre que la Cour suprême prenne sa décision. Bon, ben voilà, c'est fait, mon bonhomme, et les Mexicaines n'ont aucune raison de te dire merci. Alors par contre, celle qui pourrait peut-être avoir des raisons de dire merci, non pas à AMLO, mais à la Cour suprême mexicaine, c'est les Texans. Puisque cet état de Coahuila est un état qui est frontalier du Texas. Or, alors s'il y en a qui n'avaient pas encore allumé les infos la semaine dernière au retour des vacances, il faut leur raconter, le Texas, lui, il vient de se passer exactement l'inverse de ce qui s'est passé au Mexique, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi voté une loi qui revient à interdire l'avortement. Alors, je crois que l'avortement est interdit à partir des premiers battements du cœur du fœtus, c'est-à-dire plus ou moins un moment où les femmes commencent à peine à se dire qu'elles sont enceintes. Et pour le coup, il est interdit même en cas de viol et d'inceste. C'est vraiment une des lois les plus restrictives qu'on trouve dans les pays occidentaux. Aux States, la Cour suprême alors, est pas du tout aussi progressiste que celle du Mexique, et du coup, elle a complètement validé la loi. Et donc là, à propos de cette histoire au Mexique, c'est l'agence de presse américaine Associated Press qui le suggère. La décision de la Cour suprême mexicaine signifie que les avortements légaux pourraient désormais devenir accessibles le long de la longue frontière que le Mexique partage avec cet état du sud des États-Unis, le Texas donc. La décision pourrait potentiellement ouvrir une autre option pour les femmes texanes qui cherchent à avorter légalement. Pendant des années, certaines femmes du sud du Texas ont traversé la frontière pour se rendre dans des pharmacies mexicaines afin d'acheter du misoprostol, qui est une pilule dont on a besoin pour la combinaison des deux médicaments qui sert aux avortements médicamenteux. Voilà, tout ça pour dire que cette histoire des pays développés qui sont progressistes et des pays pauvres qui sont obscurantistes, et ben là, en l'occurrence, on est quand même bien très exactement dans un cas contraire.
Et on va s'écouter une petite musique.
On est des hétérophobes au premier degré. Ne nous laisse pas dans une soirée en mixité. On risque d'en insulter,
d'en taper,
de pas nous tenir,
peut-être même pire.
Alors évite de nous inviter. On n'est pas sortable,
pas fréquentable,
pas présentable et on fait chier. On est des hétérophobes au premier degré. On sait pas se taire, on sait pas faire, on se laisse pas faire et en plus on est vénère. L'hétérosociabilité nous fait gerber, nous sort par les trous de nez. Et on le fait savoir par tous les moyens, on arrive souvent à nos fins. Te mets pas en travers de notre chemin. On est de celles qui ne font pas semblant. On est fiers d'être méchantes. Nous on mange les enfants, alors soyez jamais parents. On est ni des meufs ni des gars, ça rentre pas dans leur schéma. Ils savent pas comment nous parler. Ils, elles, pas facile de deviner. À dire vrai, ça nous fait marrer de les voir dans l'embarras. On va pas les aider. On fait pas dans l'humanitaire. On vient pas en aide aux hétéros en galère. On va pas soutenir un désastre planétaire. Des doigts tant que leurs normes seront des lois. Tant que vivre nos identités sera un pied de nez à leur réalité sclérosée. On est des hétérophobes au premier degré, tu l'auras remarqué. Si toi aussi tu veux te marrer, rejoins notre bande d'enculés. Trop dur pour eux de comprendre qu'ils sont dominants. Qu'il y aura toujours des personnes pour leur rentrer dedans. Trop compliqué de penser que l'hétérosexualité n'est pas innée. Qu'elle se construit comme les rôles genrés. Que nos désirs sont passés aux carcières pour correspondre à leurs dorment. Mais il suffit de sauter la barrière pour échapper à leurs dogmes. Qu'ils viennent donc nous chercher maintenant qu'on est sortis du placard. On va les écraser comme des cafards. On va pas oublier qu'ils nous ont demandé de nous cacher pour vivre qui on est. Ils nous imposent la clandestinité plutôt que d'assumer que leurs potes, leurs fils, leurs filles sont gouines, trans ou pédés. On va pas oublier toutes ces années à s'en prendre plein la gueule, à parfois sentir trop seul avec ses secrets, ses tabous qu'il fallait absolument garder pour nous. On n'oublie pas que ça continue, de meurtre en suicide, en pétage de plomb. La contrainte à l'hétérosexualité fait un carton. C'est pas dans nos gènes, c'est dans notre rage, dans notre volonté de faire péter les cages. Ça fait mal quand c'est nos alliés qui nous demandent de la fermer, de nous calmer, qui jouent les capots de l'hétéronormalité. Alliés, vous avez un vrai rôle à jouer. Il est temps de lâcher votre statut de privilégié. On vous croit quand vous parlez de vos projets révolutionnaires. On doute quand à chaque Noël, chaque anniversaire, vous partez dans vos familles nucléaires. Au moins quand vous êtes en couple, en appartement, avec enfants, vos manières de faire, de relationner avec vos partenaires, vos rêves sont réactionnaires. Voir nos potes qui s'enterrent, on peut pas se taire. Ça fait trop mal à nos utopies, à nos imaginaires. Aux chandelles, tes projets de vie à deux étés. Demain ça ira mieux, pour que dans ce monde de merde on survive. Cultivons ensemble ces espaces de création, de réflexion, de partage, d'affection. L'expérimentation de la vie collective.
Et c'était Viscéralement Déviant, ce morceau qui s'appelle Hétérophobe et qui, il me semble bien, a été chanté pour la toute première fois à ce même micro où je suis en train de vous parler. Bien sûr, le groupe Viscéralement Déviant est un peu lié à Radio Canu, puisque son chanteur et sa chanteuse ont les deux, à un moment ou à un autre, été animateurs et animatrices, en particulier, enfin non, de l'émission qui s'appelait On n'est pas des cadeaux et qui était cette émission Transpédéguine sur Radio Canu les vendredis, mais qui est malheureusement terminée depuis la fin de l'année 2020. Et ouais, tout ça pour revenir à la Guinée, le coup d'état militaire. Je me suis un peu demandé quoi vous raconter parce que finalement je suis plutôt un peu moins bien informé que n'importe quelle France Info ou je ne sais quoi. Mais quand même, j'ai été faire un petit tour sur la presse africaine et je vais quand même finalement vous lire un petit bout d'article de ce journal, l'Observateur Paalga, qui parle de ça et qui revient quand même sur le fait que... alors bon, pareil, s'il y a des gens qui étaient tellement en vacances qu'ils n'ont pas écouté les infos depuis quelques jours et qui la reprennent leur rentrée avec le Canu Info du mercredi, en Guinée, on a eu un coup d'État où le président Alpha Condé a été... non, attendez. Le président, comment il s'appelait déjà? Ah. Voilà, si, Alpha Condé. A été viré du pouvoir par des putschistes. Et il faut savoir que ce bonhomme avait été un opposant, qu'il avait été un grand militant pour la démocratie, la démocratisation, les règles légales de la vie démocratique. Et puis finalement, une fois qu'il a fini par être élu président, eh ben, il a fait comme beaucoup font en Afrique, il a fait son premier mandat, son deuxième mandat prévu par la Constitution, et puis il a modifié la Constitution pour pouvoir se présenter pour un troisième mandat, malgré une forte opposition populaire. L'histoire commence à être un peu sacrément connue en Afrique. Disons que les dernières années ont quand même vu ça dans un certain nombre de pays. Mais l'histoire du et du coup pour le coup il y a eu des manifestations pour qu'il dégage, ça a pas marché. Mais l'autre histoire qui est malheureusement tristement aussi connue en Afrique, c'est que c'est les militaires qui disent oh non mais là le chef d'État il est plus très populaire, tiens il y a qu'à le dégager et puis prendre sa place. Bien sûr on remettra le pouvoir aux civils un jour. Peut-être, à moins que ça soit le chef des putschistes qui soit élu, au terme d'élections, plus ou moins, on verra comment on les organisera, etc., etc. Donc là, bah, pour l'instant, la communauté internationale ne sait pas bien quoi faire de ce coup d'État. Alors bien sûr, elle condamne. Mais elle condamne un peu en se laissant la marge de pouvoir par la suite rester amie, alliée avec le chef des putschistes, pour le coup qui est un militaire, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Et en tout cas, voilà ce qu'écrit l'Observateur Paalga à propos de tout ça. La CDAO, l'Union africaine, l'ONU, bref, la bien-pensante communauté internationale a beau condamner ce coup d'État, mise devant le fait accompli, elle finira par avaler des couleuvres dans cette énième irruption de la soldatesque sur la scène politique africaine. Ce concert de condamnation finira par connaître le même sort que celui réservé aux déclarations de principe qui ont suivi les putschs survenus dernièrement au Mali et au Tchad. Dans une logique, la communauté internationale s'agite, mais les putschistes passent. Une fâcheuse jurisprudence s'installe, consacrant le retour des coups d'État sous nos tropiques. Barack Obama et ceux qui pensent comme lui que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes ont encore du chemin à faire dans leur plaidoyer. Car il s'en trouve des Africains et des amis de l'Afrique qui applaudissent des hommes forts, qui abattent de pseudo-institutions démocratiques fragilisées par la malgouvernance. Ils applaudissent et réclament même des coups d'État comme thérapie à l'incurie des classes politiques dirigeantes. Alors, après le Mali, puis le Tchad et la Guinée, à qui le tour ? Pour l'instant, Mamadi Doumbouya imprime sa marque à la tête de la Guinée, appelant à la continuité de l'administration, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, à la poursuite des activités économiques, notamment l'exploitation et les exportations minières, au respect des engagements internationaux. Bref, il veut rassurer les Guinéens et les partenaires de la Guinée. Pas de chasse aux sorcières, promet-il, mais plutôt une invite au rassemblement pour le développement. Va donc pour les bras ouverts des nouveaux maîtres de Conakry, mais pour sûr, malgré le ouf de soulagement dans les rangs de l'opposition qui souffrait le martyr, on ne donnera pas au lieutenant-colonel Doumbouya le bon Dieu sans confession. On attendra de connaître davantage la junte et ses intentions. Qui la compose et combien de temps compte-t-elle rester aux affaires? Et l'ex-légionnaire Doumbouya, aujourd'hui propulsé à la tête de l'État, sera-t-il un président visionnaire, lui qui est en partie un produit du système Condé? On attend de voir, non sans faire remarquer qu'hier, dans une attitude d'allégeance, les vaincus, c'est-à-dire en fait tous les ministres de Alpha Condé qui ont été convoqués au palais présidentiel, les vaincus ont acclamé le vainqueur au palais du peuple de Conakry.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Info.
Alors, eh bien, comme annoncé dans les titres, le dispositif de solidarité vaccinale, autrement appelé COVAX, revoit ses ambitions à la baisse. Alors que les fondateurs de ce système, l'Alliance du vaccin Gavi et l'OMS, tablaient sur 2 milliards de doses en 2021, c'est seulement 1,425 milliards qui ont pu être ou qui vont pouvoir être collectés. Ce qui permettrait, donc si les projections revues à la baisse, mais qui ne sont toujours pas actuelles, arrivent, cela permettra de vacciner 20% de la population mondiale se trouvant dans des pays à faible revenu ou à moyen bas, enfin les moyens seuil bas. À titre de comparaison, hein, si vous êtes né, bah, vous voyez, à peu près dans un bon pays tel que le nôtre, le taux de couverture vaccinale dans les pays à haut revenu ou revenu moyen supérieur est de 80%. Dans un communiqué conjoint de l'OMS et du Gavi, il déclare, je cite, « Aujourd'hui, la capacité de COVAX à protéger les personnes les plus vulnérables dans le monde continue d'être entravée par les interdictions d'exportation, la priorité accordée aux accords bilatéraux entre les fabricants et les pays, et les difficultés à augmenter la production de certains producteurs clés, ainsi que les retards dans les dépôts de demandes d'homologation. » En gros, hein, à part pour les deux derniers qui sont un peu d'ordre logistique, les pays riches s'accaparent toutes les doses, lâchent des miettes de temps à autre pour se donner bonne conscience, mais aucun pays à haut revenu, comme je disais tout à l'heure, ou à revenu moyen haut, n'a l'intention de réfléchir deux secondes à sa politique de la troisième dose comme le demande l'OMS, et donc de mieux répartir les doses dans le monde. Pour l'OMS, l'urgence, c'est de stopper l'apparition de nouveaux variants et donc d'avoir une couverture vaccinale large, plutôt qu'une course au nombre de doses dans quelques pays qui peuvent se le permettre. Une répartition donc juste et mondiale pour des doses plutôt que des îlots de richesse vaccinale. Dommage qu'on n'entende que très très peu, voire pas du tout, ce type de revendication dans les manifs anti-pass.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va finir avec une histoire lyonnaise. Si vous n'en avez pas entendu parler, alors après une vidéo de promotion pour son futur festival, l'Antifa Fest laissait entendre de fameuses paroles dans son teasing pour le festival 2021 qui disait, je cite, « Tous les flics sont des bâtards ». Célèbre slogan que tout le monde connaît, connu également sous l'acronyme anglais ACAB. Il n'en fallait pas plus pour les syndicats de flics de passer un petit coup de fil à leur pote Laurent Wauquiez, qui s'est lui-même empressé d'annoncer haut et fort qu'il coupait les subs à l'événement. Bon, annonce reprise sans filtre par Le Progrès, sans que le journaliste nous fasse un petit fact-checking et se rende compte que la subvention retirée de 45 000 euros ne l'était pas du tout pour le festival, ce qui aurait déjà été un problème en soi, mais pour le CCO, la célèbre salle villeurbanaise qui accueille certes l'événement depuis plusieurs années, mais tout un tas d'autres à qui jamais rien, personne n'a reproché de quoi que ce soit. Du côté des organisateurs et organisatrices qui sont quand même bien embêtés que le CCO se fasse cibler sur une vidéo de promotion qu'il aurait dû, ils rappellent que le festival de leur côté est autogéré et ne reçoit aucune subvention. Bon voilà, donc je sais pas si vous avez vu la vidéo sur internet, en gros c'est quand même un groupe, je crois, qui a été passé en 2015 à l'époque au CCO pendant le festival. Donc voilà, là, on sait encore même pas quel groupe a été fait, on sait même pas si ce groupe sera là, enfin bref, toute cette histoire est complètement ridicule, sauf que Laurent Wauquiez se fait quand même une sacrée com sur ce dos.
Canu Info.
Et on va terminer avec un petit conseil de lecture qui est à lire sur le média en ligne Rapport de Force à propos du retour de la loi Sécurité Globale. C'est l'interview de Arié Halimi, qui est avocat membre de la Ligue des droits de l'homme et auteur du livre Le coup d'État d'urgence. Et donc, il est interviewé par Rapport de Force. Il y explique, par exemple, comment certains articles qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel en mai dernier, donc qui devaient faire partie de la loi Sécurité Globale, comment ils reviendront au Parlement par l'intermédiaire d'une nouvelle loi qui s'appelle celle-là, vous l'avez en exclusivité, mais on va encore en entendre parler, Responsabilité pénale et sécurité intérieure, tout un programme, autant dire encore une loi fourre-tout. Alors je cite Arié Halimi, on nous remet des mesures sécuritaires comme les drones qui avaient été censurés, une augmentation supplémentaire des transferts de pouvoir de la police nationale vers la sécurité privée, ainsi qu'un grand nombre de dispositions qui n'étaient pas prévues antérieurement. C'est une loi qui, comme d'habitude, vient à la suite d'un fait divers particulièrement choquant, à savoir le meurtre de Sarah Halimi et la décision de la Chambre de l'instruction de considérer que la personne est irresponsable pénalement. C'est un nouveau texte pour restreindre les cas d'irresponsabilité pénale. Alors, en revanche, l'article 24, interdiction de filmer des policiers, c'était l'interdiction de filmer des policiers pendant leur intervention, donc de la loi Sécurité Globale, n'est pas remis pour l'instant dans le prochain projet de loi, même s'il pourrait revenir par la voie d'amendement. En revanche, une des dispositions les plus liberticides est de nouveau au programme, l'instauration du système de drones et de caméras aéroportées qui va amplifier largement la surveillance de masse et le contrôle social. Alors, Arié Halimi rappelle également qu'il n'est pas illégal de voter des dispositions qui ont déjà été retoquées au Conseil constitutionnel. Voilà, c'est un peu l'absurdité de la loi comme on l'a fait. Si toutefois la loi est rédigée un peu différemment. Alors, ce projet de loi sera donc discuté mi-septembre à l'Assemblée. On vous conseille vivement la lecture de l'interview, donc à lire sur Rapport de Force pour creuser un peu le sujet.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et cette fois, pour vraiment finir, un petit agenda. Ce week-end, samedi 11, par exemple, à 15h, place de la Comédie, Solidarité et soutien aux Afghans, Afghanes et aux réfugiés, donc c'est un rassemblement. Et puis le même week-end, donc le 10, 11, 12 septembre, un week-end de commémoration pour Idir, qui est mort à Korba en septembre 2020. Et alors vous avez le programme complet, voilà, vendredi 10 septembre à 18h30 à l'espace communal de la Guillotière, la projection d'un documentaire en dehors de Grégory Lassalle, suivi d'une discussion avec le réalisateur. Samedi 11, un repas avec de la musique, et dimanche 12, un tournoi de foot et barbecue, ça cette fois c'est à Brignais. Voilà, donc même le samedi, c'est pas précisé, mais ça a l'air d'être à Brignais aussi. Et voilà, bah, si peut-être on peut rappeler un peu qui était Idir, donc qui a perdu la vie en septembre 2020 au mitard de la maison d'arrêt de Lyon Korba, dans des conditions assez suspectes qui font que sa mort n'est pas vraiment, ne semble pas vraiment être accidentelle. Voilà. Et puis, oui.
Moi, j'ai un agenda pour jeudi. Je ne sais pas si tu l'avais. Et ben, en tout cas, jeudi, donc demain, l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, qui se situe à Lyon, en tout cas au 57 rue Sébastien Griff, invite tout le monde jeudi à 18h30 dans son local pour une réunion d'information, pour informer sur leurs actions qu'ils comptent mener, et un peu si vous avez un peu envie de participer à leur côté. Voilà, donc il y a un rendez-vous jeudi 9 septembre à 18h30 dans leur locaux au 57 rue Sébastien Griff.
Et samedi après-midi ? Eh non, samedi après-midi, il faudrait mieux d'organiser une pétanque.
Ben non, il y a la manif de le rassemblement pour l'accueil des Afghans et des Afghanes.
Ah pardon, c'était samedi.
Pas d'agenda en fait.
Ah ouais.
Donc c'est, si on rappelle pour les personnes qui n'ont pas écouté, c'est donc à 15h place de la Comédie, voilà.
Et si vous avez des doutes, vous pouvez toujours retrouver cet agenda sur le site rebellion.info.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu.
C'était le Canu 1.